48FM. 48FM. 48FM, Amende. C'est sur le 94.1.
C'est les Street Jones au couloir en numéro 2. Allez, les Street. C'est parti pour les Street Jones.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet. Je ne dis rien.
La c'est le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Il est assis à Perron.
Allez Louis. Allez mon petit bonhomme.
Absolument Laurent, bonjour à tous, bienvenue dans ce 76e Instant Sport avec le retour de Patrick. Salut Patrick.
Ouais. Salut, bonjour à toutes et à tous. Un petit séjour du côté d'Agen. Et alors pour l'anecdote, c'est pas 48 FM bien sûr, c'est 47 FM. Mmh. Et oui, ça existe. Donc nos homologues du 47.
Voilà, vivement qu'on joue contre eux, comme ça on ira faire un match en duplex avec 47 FM.
On ira comparer avec leur playlist.
C'est ça.
Avec la nôtre.
Bon, tu nous ramènes que des mauvais résultats aujourd'hui, Patrick. Pas beau, hein ?
C'est vrai qu'on a un peu mal à la tête aujourd'hui avec les défaites de nos équipes.
On va voir ça durant cette émission. Aurélien est là aussi. Salut Aurélien.
Bonjour à tous.
Julien également.
Oui, bonjour à toutes et à tous.
Et Laurent.
Bonjour tout le monde.
Le roi de la remontada. Peut-être, mais pas aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous avez vu justement, mais le classement des pronostiqueurs a évolué ce week-end avec quelqu'un d'entre nous, c'est-à-dire moi, qui a trouvé le bon résultat, où j'égalise Julien et Aurélien à 2 points, derrière Patrick toujours à 4 points et Laurent 0. Alors, Aurélien me disait avant que l'émission commence, ah, mais c'est ta remontada. J'ai dit non, la remontada, ça serait plutôt pour Laurent qu'on attend, mais toi, c'est plutôt la défonce-tada.
Il faudrait y penser.
Alors, tu as failli marquer un point, Patrick, car j'ai instauré une nouvelle règle.
Oui, j'ai entendu ça.
T'as entendu?
Oui,
elles ont parié 2-1. Nos amis footballeuses de l'AFL, AS Becker Lozère, de but 1 pour l'équipe de France. Mais bon, c'était pas loin, mais il manquait un doublé de Giroud.
Et voilà.
D'ailleurs, Patrick, tu nous as un peu manqué la semaine dernière en tant que spécialiste de football et notamment de tactique, car les filles ont parlé tactique avec nous et on n'a pas vraiment compris. Donc, on va te faire écouter un peu ce passage pour que tu nous donnes ton avis sur la tactique des filles.
C'est bien. On a passé. Oui, c'est pas trop mal. Oui, ça va. Après, on a perdu contre une équipe qui évolue deux divisions au-dessus de nous avec un niveau qui est quand même assez extraordinaire. Des filles qui jouent en une touche de balle, ça va.
Ne dis pas n'importe quoi, Louane, il y a Laurent à côté qui va péter un boulard.
Je n'ai pas entendu.
Alors Patrick, explique-nous un peu ce jeu à une touche de boule.
Alors écoute, je suis spécialiste de ce jeu-là parce que comme tout bon Provençal, la pétanque et moi, ça fait vraiment un. Donc,
c'était ça.
Et donc voilà, c'était ça. C'est, en fait, c'est un mix entre... voilà, la pétanque et le football, donc ça fait des fois des jeux de boules, voilà. Donc je sais pas si c'est ce que nos amies féminines ont voulu peut-être dire l'émission, voilà. Ouais. Mais moi j'ai compris de suite, tu vois, j'ai vu ce lien avec la pétanque qui de suite qui me paraît évident.
Mais voilà. Du coup on passe le bonjour à Louane, hein, bien évidemment, quoi.
Voilà, on les salue, une superbe émission la semaine dernière. On n'avait pas pensé à ça sur le coup.
Donc, tu vois, ça change tout de suite qu'on ait une spécialiste autour de la table. Voilà. Ça change quand même.
Que vous directement, notamment Laurent, on pense à autre chose en parlant de boule. Mais bon. Bref, allez, handball, match capital pour le MGC qui perd à Saint-Genis-Laval 33-30. Heureusement, Voiron a perdu 34-28 à Saint-Priest. Vaux-en-Velin a perdu à Fontaine 42-30. Et surtout, Montluçon, juste devant, a perdu à Annecy 30-22. Donc, au classement, cher Aurélien.
Alors au classement, mais je vais commencer par la fin. Donc 12e et dernier Vaux-en-Velin avec 21 points, 11e Voiron 24 points, 10e Mende 25 points, 9e Montluçon 26 et 8e Saint-Genis-Laval 28.
Voilà, donc finalement, on aurait préféré gagner bien entendu, mais on limite les dégâts.
Oui, on fait quand même la mauvaise opération, puisque avant cette journée, tu étais à un seul petit point du maintien, qui est cette fameuse 8e place. Et aujourd'hui, tu es à 3 points, puisque l'adversaire Saint-Genis qui occupe cette 8e place t'a battu. Donc, ce qui fait que l'écart se creuse un peu, mais on est toujours dans cette série de matchs entre équipes de bas de tableau, et donc dès ce week-end, il y a ce déplacement à Voiron, donc quand tu vois ce qu'Aurélie vient de dire, donc c'est l'avant-dernier contre nous qui sommes juste devant, et puis la semaine d'après, tu auras la réception de Vaux-en-Velin, qui est le dernier, donc les deux matchs qui arrivent, c'est contre les deux derniers, d'où on voit toute l'importance de faire deux excellents résultats pour viser cette 9e place barragiste et cette 8e place qui permettrait de te sauver.
Donc juste pour compléter ce que dit Patrick, si s'il n'y a pas victoire ce week-end, eh ben on peut dire que c'est foutu.
Et pourquoi le 9e il est pas sauvé? On n'était pas sûr ça qu'il y en ait 4.
Le 9e fait le barrage.
Ah.
Et donc c'est le 8e qui est sûr et certain d'être sauvé. Les trois derniers descendent, donc 10, 11, 12. 9 barrages. Et
barrage 8, contre qui?
Eh ben contre 9e d'une autre poule.
D'accord.
Alors là, je sais pas quelle poule.
D'accord,
est,
mais c'est de même niveau.
Voilà.
On a les retours sur un match?
Je crois que c'est aller-retour.
J'en ai aucune idée.
Je crois que je vérifie, mais je pense que c'est aller-retour. Et donc ta question est, mais je crois aussi que c'est contre 9e d'une autre poule de N3.
D'accord, même niveau, voilà. Donc c'est quand même faisable en étant 9e. Enfin, ça peut être compliqué, mais on sait qu'il y a d'autres poules qui sont,
c'est quand même,
qui sont très fortes.
C'est quand même compliqué sur une poule de 12 où il n'y en a que 8 qui se sauvent. Il faut vraiment être solide sur toute la saison. Et puis les deux prochains matchs, donc, comme l'a dit Patrick, c'est contre l'avant-dernier et le dernier. Mais ouais. Vaux-en-Velin, attention, parce qu'au match aller, il n'y avait eu que match nul là-bas. Donc il faudra se méfier. Ce ne sera pas un match facile. Vaux-en-Velin viendra aussi... jouer certainement l'une de ses dernières cartes pour se sauver. Donc
là, ils ont pris un moins 12 à Fontaine, hein, ouais. 42 buts.
Bon, je pense que Vaux-en-Velin est un peu décroché dans sa tête. Peut-être qu'il y a des joueurs qui ont peut-être déjà plié bagage, parce que c'est vrai de prendre 12 buts d'écart, hein, même si c'est contre une équipe...
milieu de classement en 7e,
ouais,
Fontaine.
Ouais, bon, c'est pas non plus une des meilleures équipes de la poule, donc il y a peut-être un décrochage du côté de Vaux-en-Velin, mais bon, il faudra mettre bien d'autres clubs en dessous.
Pas que du côté de Vaux-en-Velin.
Mais ce qu'on peut regretter, c'est ces deux matchs, finalement, contre Saint-Genis-Laval, qui est un peu notre bête noire. On se souvient de ce match aller où on menait.
Plus 7.
Largement, et finalement, on s'incline à domicile. Et puis là aussi, on menait, puis finalement, on perd certes que 3 buts, mais au final, ben, ça fait deux défaites contre ce club qui est 8e et qui n'a que 3 points de plus par rapport à nous. Donc on voit que cette double confrontation coûte cher.
Aurélien.
Oui, on le disait depuis un petit moment, que cette série de matchs contre les derniers du classement, là, fin mars, début avril, allait être hyper importante. On disait aussi qu'il allait falloir chercher une victoire à l'extérieur, donc ça n'a pas marché ce week-end. Il va falloir à tout prix que ça marche dès le prochain match.
Oui, dès ce samedi.
C'est ça, dès ce samedi, pour justement après recevoir le dernier Vaux-en-Velin, vraiment l'esprit libéré et avoir la niaque pour aller chercher la victoire aussi. Donc vraiment le match de ce week-end est hyper important.
Pour laisser espérer, parce qu'après il y aura quand même aussi la réception de Valence. Alors on regarde le classement, Valence est 3e, mais Valence qui a l'air de lâcher aussi, puisque Patrick parlait de certaines équipes. Valence qui a pris une tannée ce week-end à Saint-Flour, 41-25. Donc il faut espérer que Valence soit dans la même dynamique quand ils viendront chez nous. Si on a eu par bonheur la victoire à Voiron, bien sûr, et contre Vaux-en-Velin.
Parce qu'il n'y en a qu'un qui monte. Donc Valence, c'est quasiment fini. Ils sont à 7 points de Saint-Flour qui est premier. Ils ne jouent plus rien.
Ouais.
Et puis je crois que c'est une équipe réserve en plus.
Oui, c'est une équipe réserve.
Qui ne peut pas monter. Donc évidemment,
il ne jouait rien.
Il ne joue rien.
D'après le staff du MGC, l'équipe n'était pas à son niveau hein, pour ce match à l'extérieur de ce week-end. Ça arrive, oui, Laurent?
C'est ce qu'on dit depuis plusieurs émissions. C'est le problème, c'est la défense en fait. Quand on prend 33 buts, c'est évident que c'est compliqué de gagner. Et c'est exactement ce qui s'est passé hier, puisqu'on a quand même marqué 30 buts, ce qui est quand même honorable, ou très honorable même à l'extérieur. Mais voilà, problème de défense, problème de concentration en fin de match, et ça coûte la victoire.
16-14 à la mi-temps, pour Mende, Roche 8 arrêts, Nové 5 arrêts, donc les goals quand même ont arrêté à tous les deux, 13 tirs, c'est quand même pas mal, c'est des bonnes stats.
C'est correct,
Chagnard 7 sur 11, Bocanegro 7 sur 9, Fournel 4 sur 5, Lefter 1 sur 1, Bartolome 7 sur 7, dont 5 pénalties.
Erwan Pot,
Pot 3 sur 3. 3 sur 3, Coste 1 sur 2, Cavalier 0 sur 2, Mizuni 0 sur 2. Voilà, on l'a dit, hein, il va falloir gagner ce match à l'extérieur à tout prix la semaine prochaine et c'est... gagner la... le match,
le droit d'y croire.
Le droit d'y croire.
C'est vrai que c'est dommage parce que tu menais deux buts. Mmh. Et bon, il restait pas tant que ça, même si handball, on sait que.
Non, on perdait deux buts à la mi-temps.
À la mi-temps, mais après, c'est... on a pris l'avantage en deuxième mi-temps.
Voilà, c'est ça. Donc il restait un quart d'heure, 20 minutes, je crois. Mmh. On menait deux buts.
Plus deux à la 42e.
Voilà, donc en fait, ça fait un plus 5 à l'arrivée puisqu'on perd deux, trois buts. Donc. Voilà, une fin de match mal négociée, et c'est vraiment dommage, et certainement beaucoup de regrets.
Il y a eu deux trous d'air dans chaque mi-temps, en fait, et on a l'impression que c'est ça qui, malheureusement, caractérise la saison du MGC, parce qu'en première mi-temps, ils étaient menés à un moment de moins 6, moins 7, mais ils ont su un petit peu se remobiliser pour venir à moins 2 juste avant la mi-temps. Après, à 20 minutes de la fin, ils menaient de plus 2, et finalement, bon, comme l'a dit Patrick, sur les 5 dernières minutes, sur les 20 dernières minutes, pardon, ça fait un écart de 5 buts à la défaveur du MGC.
Et puis c'est vrai que du coup tu capitalises pas non plus sur la victoire de la semaine d'avant à domicile face à Fontaine. C'est vrai que là c'était une victoire, on va dire, un petit peu bonus qui faisait du bien au MGC. Et c'est vrai que là le fait d'aller chercher cette victoire à l'extérieur, ça aurait pu faire que tu puisses capitaliser sur cette victoire et regarder un peu plus vers le haut du tableau.
Voilà, c'est ce qu'on a dit sur le classement, Patrick.
Tout à fait.
L'équipe 2 rate le coche, même si ce n'est pas fini. Mende, qui a fait match nul sur son terrain, 20 buts partout face au leader Béziers, et qui donc reste deuxième à 2 points du leader, Laurent.
Ouais, mais du coup, je suis allé voir ce match qui s'annonçait palpitant, et il a été. C'était un match très important entre le premier et le deuxième, et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'engagement, mais beaucoup de fair play de la part des deux équipes. Donc je me suis régalé, et puis bon, ça finit par un match nul finalement logique parce qu'il n'y a pas une des deux équipes qui méritait plus que l'autre de l'emporter. Donc
comment ça s'est joué à la fin, parce que
à la fin
c'est ça qui est important.
On a la balle à 30 secondes de la fin pour marquer le but victorieux, donc le coach de Mende pose un temps mort, et puis finalement ça a été bizarre puisque bon, j'imagine qu'ils avaient préparé une tactique. Mais l'équipe adverse de Béziers a défendu en strict, un par un, chaque joueur était occupé, donc c'était le grand bazar. Donc il y a un joueur qui est parti tout seul, qui a tiré, le goal adverse l'arrête, et il reste 5 secondes, bon, il y a eu tant de pinailler, il y a un Mende qui fait faute, et ça a été fini.
On avait le ballon de la
victoire, ouais. Mais bon, voilà. Non, franchement, je me suis régalé, je vous invite à venir voir cette équipe 2 qui joue très bien au handball.
Voilà, et rien n'est perdu. Hein,
avec
deuxième.
Un très bon gardien, Maël Bonardo, qui s'appelle. Voilà, et okay. Qui a 17 ans, très bon gardien.
Pendant ce temps, les prénationales féminines gagnent contre Pont-Saint-Esprit 26-18 et sont quatrième avec 22 points derrière Jacou 26, le MUC 34 et égalité avec Bellegarde 34. Une victoire, c'est bien.
Bah, pour finir la saison, c'est bien puisque le championnat est terminé.
C'est fini, d'accord.
Voilà, c'est fini. Il reste encore. Il reste encore au moins un match en Coupe de la Ligue. Et voilà.
Ok, bon, bah on va espérer que ça aille loin en Coupe de la Ligue alors. Mmh. Handball Nord-Lozère, les seniors filles départementales recevaient Mauriac, lourde défaite 30-18. Pendant ce temps, l'équipe région se déplaçait à Riom, victoire 31-18. Le RCML jouait pas le match de barrage, c'est ce week-end, il me semble, ouais. Contre Lunel, donc à Lunel
c'est
à l'extérieur.
Ça, à Lunel, dimanche à 15h.
Voilà, et dimanche à 15h, c'est ça, Lunel. Et la veille, au soir, il y a le loto du RCML, voilà, à Saint-Étienne-du-Val-d'Aunaise, à 20h30. D'ailleurs, j'ai croisé un des joueurs du RCML ce matin, qui a son enfant qui est dans la même classe que le mien, avec deux œils au beurre noir énorme. J'ai dit, mais t'as joué ce week-end ? Il dit, non, c'est la semaine dernière. Or, t'as loupé la semaine dernière. Enfin, t'as dû suivre, bien sûr, l'actualité en tant que journaliste sportif, avec ce match très, très tendu qui s'est pas terminé, d'ailleurs. Lui, il a gardé sur le visage la trace du match. Hein. Ouais.
Donc, enfin, on comprend mieux pourquoi il y a un des joueurs adverses qui a pas voulu rentrer.
Ouais. Il m'a dit, c'était un peu tendu. Je dis, ouais, vu ta gueule, certainement. volleyball, mauvaise opération pour le MVL qui s'incline. Clean à Épinal 3-7-0 et qui voit Avignon repasser devant. Donc, première Avignon, 21 points. Deuxième Mende, 21 points. Troisième Épinal qui se raccroche à 19 points. Quatrième Iliac, 18 points. 15e Alès, 5e Alès, 15 points. 6e Fréjus, 10 points. 7e Aluin, 9 points. Et le CNVB qui a 7 points. Donc, rappelle-nous pourquoi, alors qu'on a autant de points que Patrick, le MVL est derrière Avignon.
C'est ce qu'on appelle le 7 average, hein, c'est-à-dire le nombre de 7 que tu as marqué et le nombre de 7 que tu as encaissé. Donc, tu fais le ratio. Et donc, ça te donne ce qu'on appelle un quotient. Et donc, Avignon a un meilleur quotient que nous. Et donc, ils occupent cette première place. Même si on est ex aequo, ils sont au classement premier.
Il y a beaucoup de 7 d'écart ou pas ?
Il n'y en a qu'un.
Il y en a qu'un.
Il n'y en a qu'un. Mende en a perdu 14 et Avignon 13.
D'accord. Donc, rien n'est joué. Il suffit que...
Non. Bon, c'est anecdotique, surtout qu'il reste 4 matchs, c'est-à-dire tous les matchs retour de cette phase de play-off. Donc, on se rend compte que les résultats, il y a quand même des résultats surprenants, hein, puisque Épinal restait sur un 3-0 vraiment sec, encaissé à Avignon. Et donc, on voyait presque une équipe un peu démotivée, mais c'est tout le contraire qui s'est produit, hein, puisque il y a eu une ambiance surchauffée dans ce gymnase à Épinal. Donc, ils voulaient absolument faire retomber cette équipe mandoise. Il y avait aussi un sentiment de revanche, parce que l'année dernière, finale du championnat de France, les deux meilleures équipes, c'était Épinal et Mende. Et donc, Mende a gagné. Et donc, c'est pour ça que Mende a été sacré champion de France de N2, donc face à Épinal. Donc, il y avait aussi... Épinal n'a pas oublié cet épisode-là. Et donc, ils avaient quand même fini premier de l'autre poule lors de la première phase. Et donc, c'est dommage, parce que en faisant un bon résultat, tu éliminais quasiment Épinal. Et donc là, tu les remets dans la course. Donc il y a vraiment 4 équipes, même si Alès est pas loin. Bon, je vois mal quand même Alès revenir dans les deux. Mais il y a 4 équipes. Et heureusement que Bordeaux a perdu à domicile contre Fréjus. Ça aussi, c'est une énorme surprise. En marquant en plus 0 points. Parce que rajoute 3 points à Bordeaux s'ils avaient gagné.
Ils seraient ex-aequo avec nous.
Voilà, donc il y aurait 3 équipes en tête. Et donc là, ça serait plus la même, ça serait plus la même musique. Donc finalement, malgré ce... heureusement que Bordeaux a perdu.
Ouais, ces playoffs, on peut pas parier sur, on peut pas miser sur ces matchs. Hein, c'est vraiment fou.
Non,
ouais.
Tu peux pas miser parce que on dit qu'on est ex-aequo avec Avignon, mais là aussi, on s'en sort bien parce que Avignon, c'était contre les jeunes du CNVB, et donc tu pouvais croire qu'ils allaient prendre 3 points, mais non, ils se sont fait accrocher, ils ont pris que 2 points. Et encore, ils perdaient 2-7-0, c'est-à-dire que CNVB menait 2-7-0, il a fallu qu'Avignon gagne les trois suivants. Vraiment un résultat là aussi hyper surprenant, parce que Avignon restait, je l'ai dit, sur une victoire éclatante contre Épinal 3-0. Donc on peut se rendre compte que les équipes connaissent un peu des trous dans cette seconde phase.
Et d'ailleurs, le CNVB, c'est le prochain déplacement de Mende. Donc oui. Match à ne pas prendre à la légère quand même.
Dans 15 jours, puisque ce week-end il y a pas de match. Et ça va faire du bien parce que on sent que les joueurs du MVL avec ce parcours en coupe et cette victoire et puis ce championnat quand même qui pompe beaucoup d'énergie, on sent que les joueurs sont un peu émoussés et donc ça va faire du bien ce break là ce week-end, ils sont tranquilles.
Oui, c'est sûr que ce match, cette finale de Coupe de France, ça bouffait de l'énergie.
Oui, mentalement, parce qu'il y a eu un scénario, on en a parlé, Laurent l'a bien vu, il y a eu un scénario assez impressionnant pour cette finale. Donc physiquement et surtout mentalement, on a laissé de la gomme. Et donc, c'est pas évident, chaque week-end, là, encore, je ne sais pas si tu te rends compte du déplacement, mais Mende, pour monter à Épinal, là aussi, tu pars le vendredi, tu reviens le vendredi sur les coups de voilà, midi, 1h, 14h. Et tu reviens le dimanche en fin d'après-midi, donc bon, ça commence à peser.
Voilà, 25-23, 25-22.
C'est peut-être un petit avantage pour Mende pour ses phases de retour, c'est qu'on a déjà fait les deux plus longs déplacements, donc à Épinal et à Illiac, à côté de Bordeaux. Donc c'est vrai que c'est deux clubs qu'on va recevoir sur la phase retour, donc ça peut être un petit avantage pour le club de Mende.
C'est vrai, on reçoit les 3e et 4e, alors qu'Avignon, je pense qu'il se déplace au moins chez un des deux.
Hein. Avignon, oui, il se déplace à Bordeaux.
Voilà, ça c'est une bonne chose pour nous.
Et se déplace à Épinal, puisqu'ils ont battu Épinal 3-0 chez eux. Donc
ils se déplacent chez les deux.
Eux, ils se déplacent chez les deux, alors que nous, on reçoit les deux.
Voilà, donc on a un calendrier favorable.
Oui.
Excellent. Le week-end prochain, donc on l'a dit, break, retour le 8 avril face au CNVB à Montpellier.
Oui.
Et sur le parquet de Piancourt, donc le 15 avril, le
contre
week-end Ilac. D'après,
oui.
Contre Ilac.
Contre Ilac.
La réserve des garçons s'est inclinée 3-7-0 face à Saint-Christol-les-Alès avec 12 points en compteur. Il reste 3 matchs avant la fin de la saison pour sortir de cette 9e place synonyme de relégation. Devant eux, Béziers n'est qu'à 2 points, Montpellier à 3 points, donc c'est encore jouable, même si on sent que ça va être difficile au vu des derniers résultats. Plus de réussite du côté des filles qui ont gagné leur match 3-7-2 face à Moggio. Elles sont 10e et dernière du classement avec 10 points, mais avec 2 matchs de retard sur les premières non relégables. Moggio 17 points qu'elles doivent rattraper pour garder leur place en pré-national. Donc c'est pareil, tout va se jouer sur ces derniers matchs. Football, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu l'AFL perdre par 5 buts d'écart. Je me demande même si moi j'ai déjà vu l'AFL perdre 5-0. Ça ne me dit rien.
C'était et Montpellier, un match. Ça te parle ou pas?
Non, on marque toujours un but.
C'était 5-1 contre Marseille.
Je ne sais plus. Non, 3-1, on avait gagné à la Moisson contre Marseille.
Ah oui, non, mais moi je parle du match retour, bien sûr.
Nous, c'est comme le RCML à l'extérieur, tu vois, on a du mal. 5-0 du côté de Clermont-Ferrand, 5 buts d'ailleurs à la mi-temps.
Non,
c'était pas ça. 3-0.
3-0 à la mi-temps, 5 à la fin. Messieurs, vous avez eu des retours sur ce match?
Oui, rapidement, mais très mauvaise entame de match, puisqu'après 5 minutes, il y avait déjà 2-0 pour Clermont. Donc c'est le genre d'entame de match qui te met un peu dedans. Après, il y a eu un petit peu une tentative de réaction quand même de la part de l'AFL. Mais voilà, il n'y a pas eu la réussite offensive. Et puis un troisième but de Clermont juste avant la mi-temps qui fait encore un peu plus mal à la tête. Et de ce que j'ai un petit peu entendu, c'est une équipe de Clermont donc, qui n'avait aucun pro, mais beaucoup de jeunes. Et des dires, ça allait à 8000 quoi. Que ce soit les deux ailiers, l'attaquant, ça courait dans tous les sens, ça jouait. Et ça jouait énormément. Et certains sont même surpris d'ailleurs de voir Clermont derrière l'AFL. Au vu de la qualité de jeu proposée par cette équipe de Clermont. Avant le match, le président Laurer avait dit que la réserve de Clermont avait été l'une des meilleures équipes qu'il avait vues jouer à Delmas. Ben, les joueurs, je pense, on en fait la meilleure expérience samedi pour le match retour. Donc voilà, une défaite 5-0. En attendant peut-être une réaction ce week-end pour la coupe, la demi-finale.
Il y a quand même une autre mauvaise nouvelle sur ce match. C'est quand même, je crois savoir qu'on perd un joueur sur carton rouge.
Non.
Il y a l'entraîneur de Clermont qui a été expulsé, mais pas de carton.
Yann Robert prend pas un rouge à la 90e?
Je crois pas.
Ah, on vérifiera ça.
Ça vérifie, mais si c'est le cas, c'est vraiment un ballot pour.
En tout cas, c'est une mauvaise nouvelle pour l'AFL que l'entraîneur de Clermont prenne un rouge. Hein. Ouais. Tout à fait, Laurent.
Non, mais j'étais pas sur l'entraîneur. Moi, il me semble que Johan prend un carton rouge à 89e.
Eh bien, on va se renseigner, si c'est pas maintenant, on se renseignera durant la pause musicale. Toi aussi, tu as eu vent de ce match, Patrick, ou pas?
Non, c'est vrai que ce qu'on m'a dit, c'est qu'on était un peu resté dans le vestiaire lors de l'entame de match. Des fois, voilà. Ça arrive.
J'ai un message de Philippe Laurer, enfin, c'était indirect. Deuxième carton jaune pour Yohan Robert à 89e.
Bien, Laurent. D'accord. Et Julien, voilà. Alors
Donc il sera suspendu automatiquement.
Ou alors c'est le deuxième carton jaune du match pour Johan Robert. Je ne sais pas si à ce moment-là, à voir.
Donc, il ne pourra pas jouer cette demi-finale dimanche. Hein, je crois que c'est le match est maintenu à dimanche.
Dimanche à 14h30, il y a écrit sur le site de la Fédé.
Pour l'instant, c'est marqué dimanche 14h30.
Ouais, mais ça va peut-être se jouer d'accord samedi. Ça se joue samedi.
Pour l'instant, il n'y a rien de sûr.
On reviendra.
Il n'y a vraiment rien de sûr parce qu'il n'y a même pas les arbitres de désigner. Donc on ne sait pas.
Non mais c'est vrai que tu commences à 2-0 à 6 minutes de jeu, donc ça veut dire quand même que tu es un peu absent de ce début de match. Et voilà, moi un peu les échos qu'on m'a dit, c'est ça, c'est qu'on était un peu resté dans le vestiaire. Alors je dis pas qu'il y a eu un manque de concentration, mais un petit peu quand même, voilà, un peu match. L'équipe un peu tête en l'air, peut-être pas assez concernée sur l'objectif. Alors il y en a certaines qui disent déjà que la saison elle est presque terminée dans certaines têtes, puisque le maintien est largement assuré. Après, pour aller chercher les deux premières places, c'est vrai qu'il y a maintenant encore plus d'écart, même si à mon avis, et je le répète, ça fait des semaines que je le dis, il y avait beaucoup à jouer, parce que quand tu analyses un peu nos derniers résultats et quand tu vois l'écart qu'il y a avec les deux premiers, donc il y avait vraiment quelque chose à faire. Voilà, peut-être que certains ont un peu lâché aussi à ce niveau-là, et donc bon, à voir surtout dans les semaines qui arrivent, parce qu'il y a de gros matchs, hein, puisqu'on va recevoir de grosses équipes. Bon, il y a ce match de Coupe de France contre la réserve de Nîmes qui est aussi un CFA2, mais il va y avoir Saint-Priest.
Pas de Coupe de France.
Coupe de Gare-Lozère. Il va y avoir Saint-Priest, il va y avoir Louhans-Cuiseau, donc des grosses et belles affiches au chapitre.
Les deux prochaines journées, donc dans deux semaines, il y a la réception de Saint-Priest, et la semaine d'après, il y a un déplacement à Bourgoin. Donc les deux premiers du classement.
Ouais, parfait, mais voilà.
On peut remonter.
T'as pas de pression, c'est l'idéal de jouer des matchs comme ça.
On est à 7 points de Bourgoin-Jallieu. Si
voilà, donc j'ai bien la confirmation, Yohann Robert a pris un carton rouge.
Voilà. Bon, mais
donc, il faut trouver un latéral gauche d'ici ce week-end.
Julien.
Hein, on verra. Moi, je me tiens à disposition de tout le monde.
D'accord, mais écoutez, j'espère
de
que ça sera
de la 1 à la 3.
Voilà, on est à 7 points de Bourgoin-Jallieu qui est deuxième, à 9 de Saint-Priest. On est 8e du classement avec 30 points. On est sauvé, bien sûr, ouais. Hein, Chamalières 12e à 11 points. Non, mais même, c'est que le dernier qui descend en plus. Ouais, c'est Ilrousse.
Mais même si, dans une saison normale où il peut y avoir 3 descentes, tu es déjà largement sauvé, puisque entre Ilrousse et les deux clubs d'Auvergne, il y a vraiment un écart énorme entre ces trois équipes et le reste.
Donc on va dire qu'en fait c'était une journée sans, comme ça peut arriver dans Exactement. Toutes les équipes, dans tous les championnats. Ben nous, c'est arrivé ce week-end et c'était peut-être jamais arrivé, on cherchait. Donc voilà, tout le monde est excusé pour ce week-end.
J'ai pas souvenir. Et comme on dit, il vaut mieux perdre une fois 5-0 que...
Ouais. Que 5 fois 0.
Exactement. Donc, on l'a dit, le tirage au sort vient de tomber pour la Coupe Gare-Lozère de football. Donc, un choc, l'Avenir Foot Lozère qui recevra certainement le 1er avril le Nîmes Olympique, la réserve lors des demi-finales. L'autre demi-finale, c'est Rousson-Vauvert. La réserve du Nîmes Olympique qui a pris une tôle ce week-end, hein, oui. 4-0,
heureusement.
Je crois, hein, ou un truc comme ça.
3 à domicile 4-0. Contre Castanet, ils ont pris 4-0. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y aura ce week-end deux bêtes blessées qui vont s'affronter. Et je dirais que la bête nîmoise est encore plus blessée que la nôtre parce que eux, c'est à domicile. Et là, prendre 4 buts à domicile, ça fait mal, je pense. Ça fait encore plus mal que nous.
C'est le meilleur tirage au sort qu'on puisse avoir, hein, avec à domicile et l'autre club de CFA2.
C'est ce que je suis heureux de l'entendre parce que c'est quand même moi qui l'ai dit il y a un mois de ça.
Je me demande si c'est pas toi qui as fait le tirage au sort.
Non, je l'ai pas fait, mais je vous annonçais que c'était le meilleur tirage qui puisse nous arriver. Après, un bon tirage, on le sait qu'à la fin du match.
Donc oui, c'est pas mais au moins, ça fait une affiche de plus, une belle affiche de plus à domicile.
C'est sûr que c'est mieux de jouer à domicile contre une CFA2, parce que bon, la réserve du Nîmes Olympique, généralement, c'est beaucoup de jeunes, donc c'est une équipe qui va jouer et ça devrait
Cela
tout
dit,
pour
peuvent
faire
peut-être se renforcer peut-être, sur les matchs clés comme ça sera
mais,
ce week-end.
C'est sûr que c'est mieux de recevoir
l'équipe
Nîmes Olympique.
L'équipe joue, hein, y a une journée de Ligue 2 hein, ce week-end. Et vu qu'ils visent la montée, à mon avis, ils vont pas laisser beaucoup
de... C'est mieux que d'aller à Rousson ou à Vauvert, parce qu'au début de l'année, l'AFL est allé à Rousson en Coupe de France, ils avaient gagné que 3-2 dans un match compliqué. Et Vauvert, qui est dans notre poule en PHA, est une équipe très difficile à manier, très difficile à bouger. Et aller à Vauvert en PHA en demi-finale... c'est pas facile. Oh, ouais. Mais tu peux trembler, Laurent. J'ai joué à Kessargue en PHB. C'est des équipes qui donnent tout, pour essayer de.
Il les a bien analysés du bord du terrain.
Ouais. J'étais titulaire.
Ah, t'étais titulaire. Ah, zut. Alors, vous aviez fait quoi là-bas?
Gagné 3-2.
3-2, ouais, ouais. C'est vrai. Ouais. Non, mais c'est bien d'avoir un choc de plus pour les supporters. Non,
mais c'est vrai que quand tu analyses objectivement, il vaut mieux recevoir une CFA2 que de jouer une finale sur terrain neutre contre cette même équipe de CFA2.
Voilà.
C'est clair.
Comme on disait la dernière fois, terrain neutre à Beaucaire ou à Pouls. Quoi.
Voilà, c'est exactement. Après, c'est vrai que pour la beauté du spectacle, c'est vrai qu'une finale AFL Nîmes, les deux clubs de CFA2, ça aurait donné un cachet supplémentaire à cette Coupe Gare-Lozère.
Patrick, je t'arrête tout de suite. On s'en fout royalement. Ce qui compte, c'est de gagner.
C'est tout. C'est vrai, tu as raison.
Quand tu regardes ton CV, tu regardes si tu as gagné. Par contre, qui t'a gagné? Oui.
Non, ça dépend.
Ah ben non, c'est pas vrai. Quand t'as le bac, on te demande pas combien t'as eu ta note. Hein,
non,
si t'as
c'est un rapport. 10,
ben si, c'est pareil, quoi, c'est la même chose. C'est exactement pareil.
Aïe, aïe, aïe. Marvejol qui perd 3-0. Alors, ouais, la 2 a pas joué. Hein.
Non,
pourquoi?
On devait aller à Monoblé, mais terrain impraticable.
D'accord.
Il y a la moitié des matchs dans notre poule qui s'est pas joué, mais
oui, j'ai
sans,
vu ça.
Sans jouer, on a quand même fait une petite bonne opération puisque Chusclin, qui est troisième, a fait 0-0 à la maison contre les derniers Saint-Christophe les Alès.
Bien.
Donc c'est un bon point pour nous, ça.
Ok, Marvejols a perdu 3-0 à Pays du Zest. Ils n'y arrivent pas à l'extérieur hein, cette année, Marvejols. Hein.
Mais la Pays du Zest, c'est l'extraterrestre de la poule. Hein, donc,
ouais, mais...
Ils vont monter sans problème en DH. C'était compliqué de.
Ah oui, ils ont 60 points, voilà, le second à 47
c'était,
points.
C'était vraiment compliqué. Hein.
Marvejols qui est 8ème.
Qui a raté un pénalty en plus, Marvejols.
Ah bon ?
Ouais, ils ont raté un pénalty quand Uzès menait 1-0 et deux minutes après, ils ont pris le deuxième. Donc,
Parce qu'ils n'en ratent pas souvent. Hein. Mm. En tout cas, voilà.
Et donc Marvejols qui a bien son match perdu.
Ah, ça y est, on le sait. Oh là 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 là, c'est pas possible.
La décision a bien été confirmée. Donc match perdu par forfait avec 0 point. Et donc match gagné à Rousson, je crois.
C'était ça. Ouais, ouais.
C'était Rousson.
Donc voilà, Marvejols 8e, 39 points. Il y en a combien qui descendent ? 3, tu crois ? 2 ?
Au moins 2 et peut-être 3 des fois.
Oui, ils sont à 8 points du premier relégable de Metz, donc ça devrait quand même passer. Langogne, Langeac, 2 buts partout. Le Buisson, Bessèges, 1 but partout. Badarou qui joue pas comme la réserve de l'AFL. Le NL qui perd 5-0 à Velay. Donc je pense que c'est le Puy, hein, en Velay.
Non,
c'est Velay tout court.
C'est un club de la banlieue du Puy, mais c'est pas le Puy. C'est pas l'équipe du Puy.
Voilà, qui est mal, hein, le NL. Hein. Ils ont gagné il y a 2 semaines.
Ils avaient fait l'espoir justement contre le Puy, contre la Lazare du Puy,
qui est
bien classé. Donc une belle victoire à l'extérieur. Et donc là, un autre déplacement qui s'est conclu par un 5-0. Mmh. C'est vrai que ça fait mal aussi et ça va être compliqué pour le NL.
C'est le score du week-end, 5-0, j'ai l'impression, en foot.
Ouais, c'est ça.
Ça fait mal.
Enfin, il y a 2 matchs où il y a eu 5-0, juste. Hein. Et le NL, on y est un peu plus habitué. Alors,
oui.
Cette saison, du moins, malheureusement. Ok, c'est fini. D'autres infos à faire passer en sport lausérien. On a bien fait le tour, messieurs.
Mmh.
C'est bon ? On fait une pause musicale ?
Parfait.
Allez, c'est parti.
Y a des hauts, des bas, des bas et des hauts. De drôles de débats et de la démago. Des coups de pression, des coups dans le dos. Des coups de bluff et des hauts, des hauts. Ici bas où il y a des hauts, des bas et des hauts. De drôles de débats et de la démago. Des coups de pression, des coups dans le dos. Des coups de bluff et des hauts, des hauts. Il y a des hauts, des hauts. De drôles de débats et de la démago. Des coups de pression, des coups dans le dos. Des coups de bluff et des hauts, des hauts. Hello, comment ça va? On s'est pas vu depuis longtemps, toi et moi. Le temps passe vite et il t'a usé. Fier comme un paquebot, digne comme un voilier. Y'a la chance, la loose et la wheel qui redonne l'espoir quand la vie abîme. Il paraît qu'on ne vit qu'une fois. J'ignore tellement de choses mais pas celle-là. Y'a pas de sous-métier, y'en a quand même de très mal payés. L'insécurité est une grande vedette de la télé. Y'a des tonnes de types qu'on y en a fait en prison. Plein d'escrocs, cravatés qui nous prennent pour
Allez, handball, Ligue des Champions, avec Montpellier qui s'impose en huitième de finale aller à Kils, mené de 4 buts en deuxième période. Le MHB a renversé le champion d'Europe en titre, 33 à 28, plus 5, alors il y a un match retour. Champion d'Europe en titre, en plus, Julien, tu as vu la
J'ai regardé la deuxième mi-temps de ce match. Donc comme tu l'as dit, mené de 4 buts en deuxième période, et on avait l'impression qu'ils n'allaient jamais revenir. Et puis d'un coup, le gardien Nicolas Portner a commencé à entrer en fusion. Il n'y a plus rien qui rentrait dans les buts. Et que ce soit devant Diego Simeone, l'Argentin, Fabregas et Mathieu Grébille ont commencé à jouer à leur meilleur niveau. Et cette équipe de Kielce n'a plus existé. Et donc Montpellier a fait une super opération face à Kielce, donc qui est champion d'Europe en titre. L'an dernier, ils avaient été champions d'Europe au terme d'un scénario incroyable, puisqu'en finale, ils étaient menés de 5 buts à 10 minutes de la fin et ils avaient renversé, je ne sais plus contre qui ils avaient gagné, mais ils avaient renversé l'équipe adverse pour finalement s'imposer au tir au but. Donc une équipe très, très accrocheuse. Et puis c'est bien surtout d'aborder le match retour en Pologne avec 5 buts d'avance, puisque hier, c'est Ludovic Fabregas, qui disait que sur les deux dernières années, ils avaient perdu à chaque fois à domicile de 1 ou 2 buts, donc que ce n'était pas beaucoup, mais qu'à chaque fois, ça leur portait préjudice pour le match retour. Et là, on a senti vraiment que ce plus 5, c'est vraiment une super opération avant le match de la semaine prochaine.
Ouais, plus 5, c'est important comme marge.
Aurélien va vous dire, plus 5, c'est le résultat du week-end.
C'est ça. Mais tiens, on va te donner la parole, Aurélien. C'est le résultat du week-end, plus 5 ?
C'est ça, tout à fait. Donc, grosse performance de Montpellier. C'est vrai que contre le champion de titre, surtout, comme disait Julien, au milieu de la seconde mi-temps, quand tu as 3-4 buts de retard, tu ne penses pas que tu vas pouvoir renverser la vapeur, et puis ils l'ont fait. D'ailleurs, pour ceux qui veulent avoir un petit compte rendu du match, il y a un très bon papier sur Midi Libre de notre ami Luc Respon, qui était à Bougnol hier. Donc vous pouvez lire le résumé de sa part.
Voilà, on aurait pu le faire intervenir tiens, en direct pour en parler.
C'est vrai.
En tout cas, plus 5, c'est toujours un final fort. On arrive jusqu'aux demi-finales après les 4 finales fortes.
À Cologne cette année.
À Cologne, ok. Nantes, Paris Saint-Germain, alors je ne sais pas qui s'est tombé l'un contre l'autre en huitième de finale. 26 partout sur le terrain, sur le gymnase de Nantes, donc plutôt ballottage favorable pour Paris.
Exactement, mais bon, ce club de Nantes est en train de vraiment de grandir et de créer une équipe vraiment intéressante, puisqu'en championnat, il y a très peu d'écart entre Paris et Nantes déjà. Et donc là, ils sont rencontrés en Ligue des Champions, match nul. Attention au match retour, on sait que bon, ça peut basculer aussi de chaque côté, ça sera vraiment aussi serré. Mais ballottage favorable pour Paris, c'est sûr.
Juste une petite question. Donc, du coup, ça veut dire qu'on avait au moins 3 clubs de qualifiés en Ligue des Champions. Ça marche comme au foot, comment ça se passe là?
Parce qu'en fait, il y avait une poule, il y avait deux poules, soi-disant, qui rassemblaient les meilleurs. Où quasiment ils étaient tous qualifiés pour les huitièmes. Et puis après, il y avait deux poules qui rassemblaient des pays et des équipes moins huppées, donc en particulier Nantes et Montpellier. Et donc là, il fallait terminer dans les deux ou trois premiers de cette poule pour justement avoir le droit de faire les huitièmes. Et donc, comme Montpellier et Nantes ont dominé, on finit d'ailleurs premier de leur poule tous les deux, donc ils ont pu se qualifier pour les huitièmes.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut finir. Ils prennent les trois premiers du championnat qui sont qualifiés en Ligue des Champions.
Non, parce que Saint-Raphaël était dans les trois premiers en fin de saison dernière, mais Saint-Raphaël n'a pas eu l'autorisation de la Fédération européenne de faire la Ligue des Champions pour un problème de budget et de salle et de capacité de salle. Et donc, d'ailleurs, donc ils ont très mal vécu. Ils l'ont très mal vécu. Et donc, ils ont été écartés de la Ligue des Champions.
Comment ça, Montpellier moins UP?
Oui, dans les résultats par rapport au classement de tous les clubs européens, Montpellier n'était pas suffisamment en haut de cette liste pour justement intégrer ces deux poules hautes. Il n'y avait que Paris qui était en mesure de le faire. Donc c'est pour ça que Montpellier et Nantes ont été dans les poules 3 et 4.
C'est étonnant quand même parce que...
C'est vrai que le club de Montpellier a rétrogradé après la fameuse affaire des Paris. Hein.
Exactement.
C'est vrai que ça leur a fait beaucoup de mal
financièrement, au niveau de l'image et sportivement aussi.
Ouais. Donc c'est ça qui a fait que Montpellier n'était pas dans la poule des clubs UP d'Europe.
Bon, si on passe
malgré
ça, leur
palmarès assez impressionnant.
Parce que d'après ce que j'ai compris, donc dans les deux poules hautes, c'était des poules de 8, tu avais les 6 premiers qui étaient qualifiés. Alors que dans les poules 3 et 4, tu n'en avais que, je crois, que les deux premiers ou les trois premiers qui étaient qualifiés.
D'accord. Bon, mais là, si on passe, on devrait remonter pour l'an prochain.
Et deux premiers.
Et deux premiers, puisque oui, ça fait 6-6-12, et c'est ça. Et 4-2-2-4, c'est ça. Donc il fallait finir dans les deux premiers.
Qui a dit « Un passé indélébile, un futur à écrire, des chèvres sur le terrain ».
C'est les supporters de loin, ça, non ?
Il ressemble un peu.
Puma, c'est Puma, le nouvel équipementier. Bon, ils n'ont pas mis des chefs sur le terrain, c'est moi qui l'ai rajouté. Ça y est, ils ont lancé les campagnes de promotion pour.
Ils ont dit qu'enfin Maradona allait pouvoir venir à Marseille.
Et après, ils ont dit ça. Enfin, Maradona à Marseille.
C'est ça.
Ils ont dit aussi, comme l'Olympique de Marseille, le Puma de grandes oreilles.
Exactement.
Par rapport à la Coupe d'Europe.
Ouais, qui avait été acheté, on s'en rappelle, en combien.
Et là, ils ont perdu tous les marchés de la région parisienne, Puma, du coup. Ils n'ont pas fait des amis.
C'est bien, ça vous plaît là, les deux Marseillais?
Bah oui, parce qu'il paraît que Usain Bolt va signer à Marseille. Ouais. Donc un allié hyper rapide.
Avec la même technique que Bounassar, donc ça va.
Bounassar, il ne peut plus jouer.
Bien vu.
Peut-être qu'on va le mettre derrière quand même, parce qu'il est grand là, c'est à la place du goal qu'on a là, qui est déjà très grand.
Mais il est grand ton goal, il n'est pas bon, mais il est grand.
Et ben voilà.
L'Albatros.
Bon. L'Albatros.
Et ça vous plaît Puma ou pas alors, vous m'avez pas répondu?
Bah oui, parce qu'ils mettent plus, ils mettent plus qu'Adidas.
Oh, c'est pas qu'une question d'argent.
Eh si, ça compte.
Bah, c'est évidemment que de l'argent.
Demande
quand t'es amoureux d'un club, t'aimes avoir un beau sponsor, tu vois. Si je t'avais dit,
écoute,
c'est
Diadora, Reebok, on l'aurait pris, quoi.
C'est, ouais, ou Diadora.
Patrick.
Patrick.
Ouais, pas Patrick. Joma. Pour toi, oui. La marque Patrick, non, mais on aurait pris pareil.
Ouais, bon. Ok. On va parler de... Ah tiens, on va faire un pronostic avant de parler de l'équipe de France. Donc bien sûr... Alors j'hésitais. Bon, Espagne-France, on ne pronostique pas ces matchs amicaux. On sait ce que les matchs amicaux, ça veut rien dire.
Match amical.
C'est un match amical. Oui, si tu mets au pluriel. Il y avait également un beau Nice-Bordeaux. Alors j'hésitais pour notre ami Julien, mais finalement, il y a la finale de la Coupe de la Ligue.
Oui, samedi.
PSG-Monaco. Donc je vais vous demander, Laurent, tu peux éviter de parler, s'il te plaît?
Non, j'ai demandé un renseignement au petit jeune.
Non, mais tu le demandes à voix haute après que j'ai fini mon explication. Je demande à la fin du temps réglementaire. Donc on a le droit au match nul, on s'en fiche, temps réglementaire, c'est fini. On est d'accord? Ça vous va? Ok, Laurent, qu'est-ce que tu veux demander? S'il y a des joueurs blessés.
Voilà,
si...
c'est ça. Je cherchais le nom d'un joueur blessé.
Sidibé ?
Voilà, c'est ça.
Non, c'est pas Sidibé qui s'est blessé.
Sidibé, c'est exactement le nom que je cherchais.
Alors, est-ce qu'il jouera ?
Non, je pense pas.
Ah ben non.
Il a un hématome.
Il y a les côtes pas en bon état.
Et Mendy avait l'air pas en bon état aussi. Par exemple, on l'a vu un peu avec des béquilles.
En boîte, il était pas bien.
Il jouera pas contre l'Espagne.
Ça aurait chicha au Luxembourg.
A priori. C'est pas trop grave.
C'est vrai qu'il peut y avoir des blessés du côté de Monaco demain. Il n'y en aura pas du côté de Marseille.
Si, Thauvin.
Ah ouais, Payet. Peut-être. Ouais. Ah, et Payet, ouais, c'est vrai. On va faire dans l'ordre du classement. Comme ça, Laurent, on laisse Laurent. Non, Laurent, à la fin, il faut l'aider un peu, ce pauvre homme. Patrick.
2-1 pour Monaco.
D'accord. Aurélien.
Moi, je vais dire 1 partout.
Moi, je dis 2-2. Julien.
2-1 pour Paris.
Et c'est ce que je voulais dire, 2-1 pour Paris.
Ok, dommage Julien. C'est parfait.
Je resterai avec mes deux points, c'est pas grave.
Bon, mais parfait. La France a gagné au Luxembourg 3-1, un doublé de Giroud. Alors, moi j'aimerais qu'on parle un peu de Giroud, ce joueur qui est l'avancante, qui marque des buts, mais qui n'est pas spécialement beau à voir parce qu'il ne court pas super vite. Enfin, c'est ce qu'attendent les gens, notamment les non-connaisseurs de football, en se disant, nous, on aime les gens qui vont vite, qui courent, qui partent au but. Giroud, Patrick, c'est quand même incroyable ce qu'il fait.
C'est incroyable, surtout, comme tu l'as dit, dans le contexte qui est le sien. C'est-à-dire qu'il faut pas oublier que les matchs amicaux avant l'Euro, il a été copieusement sifflé par le public français.
C'est bien que tu le rappelles.
Et donc, ils viennent de loin. C'est vrai que techniquement, il est vraiment limité. D'ailleurs, si tu regardes son début de match contre le Luxembourg, le premier quart d'heure, il faudrait revoir et compter les ballons. Mais les déviations, je pense qu'il n'a pas réussi une seule déviation où ça partait en touche, où c'était directement sur l'adversaire. Donc au bout d'un quart d'heure, tu te dis, mais ce Giroud, vraiment, c'est une truffe. Et puis au final, c'est vrai, il marque deux buts. Bon, il faut dire qu'il a eu deux super ballons envoyés, mais il faut quand même être là, il faut les mettre. Okay. Donc c'est tout le paradoxe de ce joueur qui est techniquement limité, mais qui est présent et qui vient d'intégrer le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire du football français. En équipe de France.
Patrick, tu disais qu'il n'a pas réussi à dévier un ballon, etc. Mais à sa décharge, il avait quand même un très grand joueur qui le chargeait, puisque c'était le stoppeur de l'équipe réserve de l'Olympique Lyonnais. qui jouait ce week-end contre le Puy-en-Velay. Il n'a pas pu jouer contre le Puy-en-Velay, malheureusement, ce joueur, il a joué contre Olivier Giroud. Mais voilà, aussi, il y avait de la concurrence. Quoi.
Ça chante, c'est terrible.
Ça chante, moi, ça chante.
Non, mais c'est vrai.
Non, mais je pensais, non,
le mec, il joue en équipe réserve à Lyon.
Je pensais plus que tu avais parlé de Chano, qui joue au New York avec Patrick Vieira. De Patrick Vieira. Mais c'est bien de sortir des références comme ça.
Voilà, exact.
Qu'est-ce que tu allais dire, Julien, sinon ?
Non, Giroud, ben... Giroud, c'est le genre de joueur sur lequel Deschamps, il sait qu'il peut compter. Quoi. Il a eu un petit peu la même période avec Valbuena, où il était moins bien en club, mais à chaque fois qu'il venait en sélection, c'était une bouffée d'oxygène et il décevait jamais. Bah, Giroud, on a l'impression que c'est un petit peu pareil. Puisque bon, même si c'était face au grand Luxembourg du défenseur de...
Le Grand Duché, tu sais que le Luxembourg, c'est le Grand Duché.
La réserve de l'Olympique Lyonnais, donc c'est bien qu'il ait mis deux buts. Et puis comme l'a dit Patrick, mine de rien, il rentre dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France. Donc ça, c'est une stat qui compte quand même, avec 23 buts. Puis non, c'est bien pour lui. Puis c'est vrai qu'après, bon, en équipe de France, on sait qu'il est pris pour son profil, puisque bon, on n'a pas ce genre de joueur grand, capable de faire des déviations comme ça. Et tant mieux pour
nous,
lui.
On l'a à la FL. On a le même profil à la FL. Abdoulaye Diallo, même profil.
Il marque autant que Giroud en équipe de France.
Il marque plus de buts que Giroud.
Oui, il a combien Giroud? Il doit être à combien de buts par match?
Ah ben avec Arsenal, c'est vite compté. Non,
en équipe de France.
Il a 23 ans et je sais pas combien de sélections.
Mais c'est le meilleur buteur de l'équipe de France là depuis 2016 avec 10 buts devant Griezmann et Payet.
Et ouais. Tu vois?
Non, mais c'est vrai que c'est un joueur vraiment qui a un état d'esprit irréprochable. Hein. À chaque fois il est contesté, il est sifflé et lui il continue à bosser, il travaille, il répond présent à chaque fois. Donc voilà, moi c'est le type de joueur que j'aime bien, et puis après il prouve avec ses qualités sur le terrain. Donc moi il y a pas de souci pour qu'il soit sélectionné en équipe de France.
On part vers un duel France-Suède. La Suède qui a gagné, les Pays-Bas ont joué ou pas, non?
Oui,
ils ont perdu
2-0 en Bulgarie.
Et donc le sélectionneur a été limogé. Le sélectionneur de Danny Blind, l'ancien grand défenseur, qui a été limogé le lendemain.
Son fils ne jouera plus en équipe alors. Ce Blind qui joue au Manchester, que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas si bon que ça.
Non.
Il me rappelle un peu le joueur qui jouait à Monaco à l'époque où ils sont arrivés en finale de Ligue des Champions. Ce défenseur qui a joué en équipe de France, qui avait une grande barbe.
Gaël Givet,
voilà. J'adorais ce joueur. Il était limité, mais très très bon.
Qui joue en équipe 3 de Monaco maintenant. Ouais. Gaël Givet, un DHR.
Mais toi, t'es un pro des réserves, quoi.
Non, mais là, c'est la réserve de la réserve. Hein, c'est l'équipe 3.
L'équipe 3, ça le connaît, Laurent.
Ouais, c'est vrai. Bien joué.
Qui joue à Arles-Avignon. Qui a fini sa carrière à Arles-Avignon, puisque lui même est originaire d'Arles, du même quartier que Diroui Cissé.
Puisque Laurent parle de l'équipe 3 de Monaco, ils se sont quand même fait une sacrée dream team, l'équipe 3 de Monaco, puisqu'il y a encore Yann Kohler qui joue, l'ancien attaquant tchèque, Ludovic Juli, des fois qui va jouer, et il y a même Stéphane Porato, l'ancien gardien de Marseille, et Kamel Meriem qui a repris du service cette année avec l'équipe 3 de Monaco. Donc c'est pas mal pour Jean DHR.
Qui joue en DHR. Ouais.
Excellent, ils vont monter, non?
Même pas.
Non.
Non, on connaît pas leur classement, là. Ça serait bien de tomber contre eux, l'EFL.
Non, c'est
tu peux pas parce que c'est la région PACA, donc l'année prochaine, ça va être pas en région administrative, tu ne pourras pas jouer contre Monaco.
Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il y a eu des résultats étonnants pour ces qualifications-là? Je n'ai pas trop regardé, non.
Les Pays-Bas qui ont perdu, la Belgique, qui a été accrochée à la maison par la Grèce, un partout, quand même.
Qui a égalisé à la dernière minute, en plus.
Par Lukaku, Et après, non, pas de résultats surprenants. L'Angleterre qui a gagné 2-0 grâce à Defoe, là, 34 ans, qui est revenu 4 ans après sa dernière sélection. L'Allemagne 4-1 en Azerbaïdjan, tranquille.
Tu parlais de l'Angleterre, mais il y a une image absolument bouleversante juste avant ce match où il y a un jeune gamin qui a 5-6 ans et qui est condamné puisqu'il a un cancer incurable. Et donc son club favori, c'est Sunderland, qui est dernier du championnat de première division. Et donc ce Jermaine Defoe, comme tu dis, est l'attaquant de Sunderland. Donc son rêve, c'était de le rencontrer. Donc il est rentré, il faisait partie de ces gamins là qui accompagnent les joueurs avant le début du match. Et donc il a pu tenir la main de Jermaine Defoe et pénétrer sur le terrain à côté de lui. Et donc il y a une accolade vraiment qui donne des frissons entre ce gamin et Jermaine Defoe, où le joueur a pris ce gamin dans les bras et on voit le gamin qui s'essuie... les yeux, parce qu'il est en train de pleurer, forcément. Et donc voilà. Et
ils ont
très, très, très émouvant. Quoi.
Même passé une petite partie de la journée ensemble. Il me semble que ce garçon est allé chez Defoe ou du moins à l'hôtel du rassemblement de la sélection d'Angleterre pour passer un petit moment avec Jermaine Defoe. Ouais.
C'est sûr qu'on préfère voir ce genre d'image plutôt que les hooligans anglais qui font des saluts nazis dans les tribunes et qui chantent des chants très
émotion, l'émotion de Defoe plus l'hommage qui a été rendu suite à ce qui s'est passé à Londres. Ouais. C'est vrai qu'il y avait une sacrée émotion à Wembley pour ce match contre la Lituanie. Ouais.
Non, mais c'est vrai que nous, on aime le sport, on est convaincus, on sait que ça donne des émotions, mais c'est vrai que des fois, on entend ouais, le sport, finalement, à quoi ça sert, c'est des sommes folles. Bon, tout ça, c'est vrai, moi, je ne le conteste pas. Mais bon, quand on voit des images comme ça, il faut se mettre à la place de ce gamin. L'émotion qu'il a ressentie ce jour-là, ben oui, il n'y a que le sport qui peut lui procurer cette émotion-là. Et donc, heureusement que le sport existe et heureusement qu'on peut partager entre nous cette passion pour le sport.
Ils n'ont pas d'attaquant, l'équipe d'Angleterre, pour prendre le buteur de 34 ans du dernier du championnat de première ligue.
Il fait une saison exceptionnelle quand même. Hein.
Non, mais surtout que Defoe explique, il reçoit un texto ou un message et le sélectionneur, il a signé Gareth, puisque c'est Gareth Southgate. Il dit mais qui c'est ce Gareth, quoi. Pour lui, il était tellement loin de l'équipe d'Angleterre, il s'est dit mais qui c'est ce gars qui m'envoie ce message-là. Et après, il a réalisé dans un second temps que c'était le sélectionneur. Donc, tu vois, il était à des années-lumière de revenir en équipe d'Angleterre, il y a des années-lumière d'être titulaire, et en plus de marquer le premier but. Donc, c'est une belle histoire de ce football anglais, mais ça prouve aussi pourquoi l'équipe d'Angleterre est loin de gagner un tournoi majeur. Et c'est le meilleur championnat au monde, mais il y a beaucoup de joueurs étrangers, donc après, c'est compliqué de trouver des joueurs anglais.
Ce qui prouve aussi que c'est pas quand même une très grande nation de football, c'est que si le mec fait ses convocations par SMS, c'est qu'ils ont quand même encore du retard et du taf.
Non, mais tu as raison. Mais
tu sais pas comment il le fait, Deschamps, hein. Peut-être qu'il envoie SMS.
Deschamps, il a moins recommandé avec QZ Réception un mois avant.
Il le fait à la télé. Il regarde à la télé en direct pour savoir s'ils sont pris. Vaut mieux recevoir un SMS, hein.
Non, cher ami. C'est pas vrai.
Alors, Portland, comment ça va, Portland ?
Ah ben ça va nickel. Ouais, beaucoup de victoires en ce moment, notamment une de prestige puisqu'on a éclaté l'équipe de San Antonio. Et depuis, on déroule. Facile.
On arrive à la fin de cette saison NBA, Aurélien. On en est où à peu près ?
Qui se finit la saison régulière le 12 avril.
Le 12 avril, il reste une dizaine de matchs. Ouais. Donc, où on en est à peu près là ?
Pour l'instant, on connaît déjà 5 qualifiés pour les playoffs, c'est-à-dire Golden State, San Antonio et Houston à l'ouest et Cleveland et Boston à l'est. Et donc ensuite la bataille va être difficile pour Portland qui vient d'arriver dans le top 8, donc puisque les 8 premiers sont qualifiés pour jouer les playoffs. Donc Portland vient d'intégrer le top 8 à égalité de points, à égalité de victoires avec Denver. Donc la bataille entre les deux va faire rage pour la 8e place.
Voilà, pour jouer contre Golden State au premier tour et se faire éclater. Patrick, on a parlé de Noah la semaine dernière. Je sais que tu as envie qu'on en parle de ces mêmes matchs de suspension.
Juste pour finir, pas cette nuit, mais la nuit prochaine, il y a une Denver-Portland, Laurent, que tu vas pouvoir regarder
d'accord.
Et qui risque d'être.
Ah, je vais regarder.
Qui risque d'être très. Et
c'est
très
sûr que c'est Golden State les premiers.
Oui.
Peut-être d'ici là, ils seront plus premiers.
Non, mais les clubs de l'Ouest sont largement en tête au ratio des victoires par rapport aux clubs de l'Est.
Vous avez vu qu'il y a un joueur qui a mis 70 points dans un match,
ouais.
Qui l'a perdu en plus.
Ouais, c'est dommage, c'est ballot. Mais il a 20 ans, c'est un tout jeune.
C'est un tout jeune, ouais.
Il va encore être recruté à Golden State, celui-là. C'est pas tous les meilleurs joueurs.
N'importe quoi.
Bah si.
Okay.
Ils ont recruté Kevin Durant cette année.
Oui, mais c'est pas pareil.
Bah si.
Mais non, mais tu peux avoir des joueurs qui marquent 70 points un match et que tu reverras jamais. Tu sais pas pourquoi.
Et il y en a qui, dans toute leur carrière, ils les mettront
oui,
pas.
C'est, ouais. Oui, ça se fait, mais lui, je pense qu'il a quand même une très belle.
Ouais, il a un potentiel quand même.
Ouais.
Ok, et Boston qui se raccroche à Cleveland, qui est au même pourcentage de victoires, il me semble, et de défaites.
Ouais, il se rapproche, ça va être dur, là, la première place à l'Est, Cleveland. Je pense que Cleveland va quand même la garder, mais c'est vrai que. Ça fait quelques années qu'il se balade un petit peu dans cette conférence. Là, il y a un peu plus de concurrence, donc c'est intéressant.
Allez, on finit juste en parlant de Gobert, qui va peut-être être élu dans les semaines à venir défenseur de l'année. Patrick, on l'a
oui,
suivi,
ce Gobert,
il
le mérite,
il le mériterait. Hein.
Il a battu son record de points, il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, c'est vraiment un phénomène, hein. Donc lui, il faut le garder au chaud, hein, pour l'équipe de France, pour les cross compétitions, élément indispensable.
On parle pas du shooté de l'année, par contre. Le petit Noah.
Joachim Noah. Ouais,
on en a parlé la semaine dernière, Laurent.
On n'avait pas parlé que c'était fait suspendre 20 matchs.
Si, si, on l'a dit la semaine dernière, non?
Non, non, c'est tombé, ah non, c'est tombé cette semaine.
Ouais, ok, bah on va en parler alors. Ouais. Allez, fais-toi non, plaisir, c'est balance.
Y est, c'est bon, on l'a dit.
Patrick, allez, vas-y.
Non, mais c'est vrai, un produit, j'avais jamais entendu parler de cette molécule.
vraiment. C'est une molécule dans un, voilà. Dans un médicament.
Ouais,
c'est,
un truc qui vient de Saint-Jean-du-Gard, là, un truc un peu bizarre.
Alors, c'est un complément alimentaire, apparemment, pour renforcer la masse musculaire, pour se alors développer au niveau de la masse musculaire.
Il n'a pas de chance parce que dans deux semaines ou trois semaines, je crois, ce complément n'est plus sur la liste des produits dopants.
Donc, c'est ça, il va être, apparemment, il va être autorisé pour la saison prochaine. Hein.
Pour la saison prochaine, ouais. Donc.
Lui, il s'est fait choper cette année.
Non, mais c'est vrai que globalement, son transfert à New York,
c'est vraiment
cataclysmal. Sur tous les points de vue, il est souvent blessé. Quand il joue, il n'est pas performant. Et là, en plus, ça lui tombe dessus. Donc, cette histoire de suspension, mauvaise année.
Ah ouais, c'est vrai que sa première année à New York, c'est quand même son club de cœur, hein, puisque lui, il a grandi à New York. C'était son rêve de jouer au Madison Square Garden. Et sa première année est une catastrophe, effectivement.
Et là, il est détesté par les supporters.
Ouais. Et là, avec cette, histoire, du coup, il a pris 20 matchs, donc les 10 derniers matchs de la saison régulière et donc les 10 premiers matchs de la saison suivante, hein, puisque New York ne va pas être en play-off.
Comme chaque
année. Donc, Joachim Noah, on ne le reverra pas sur les terrains d'ici le mois de décembre.
Ouais, mais il va jouer une équipe de France. Ah non, mais il n'y a pas de match.
Donc, si, il est champion d'Europe cette année.
Ce soir, il est blessé.
Première année loupée, seconde année qui démarre mal quand même, avec 10 matchs sur le banc. Allez, ok. On verra ça. Donc, Laurent, hein, la semaine prochaine, on va t'interroger sur ce Portland Denver.
Ah, ok. Hein, alors, rappelle-moi, c'est quand?
C'est pas cette nuit, c'est la nuit prochaine. C'est-à-dire la nuit de mardi à mercredi.
Mardi, mercredi, 2-3 heures du mat. D'accord?
Ah, ouais, bah, c'est pas pareil. C'est à 2 heures ou à 3 heures?
Ah, oh, bah, tu te lèves à 1 heure et tu attends.
C'est sur Bein?
Comme ça.
Je pense que ça va être télévisé, ouais.
Ouais.
Ok. Allez. Tu pourrais dire que les Denver Nuggets, vous allez en faire qu'une bouchée.
Ah, en faire du pâté, oui, voilà. Les Nuggets. Tu vois.
Allez, ciao les gars, n'importe quoi, à bientôt. Bye.
Au revoir.
Leslie John au couloir numéro 2. Allez, Leslie. C'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, super marqué. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside, pretty play from Tony Parker.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Ah, je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Utah Diapéro.
Allez Louis. Allez mon petit bonhomme.